François Copé, Henriette. Quand le curé eut donné l'absoute, et quand les amis et les connaissances du défunt, sortis les premiers de l'église après avoir jeté l'eau bénite, se furent formés en petits groupes sur la place Saint-Thomas d'Aquin, des conversations s'engagèrent entre ces hommes du monde, heureux de respirer l'air vif au clair soleil de mars, après l'ennui d'une messe interminable dans l'atmosphère suffocante de l'encens et du calorifère. « Ce pauvre Bernard, c'est dur tout de même, boucler sa malle à 42 ans. »« Pas sans doute, mais il s'est pas assez ménagé, convenez-en. Ah, voilà qui aura fait la fête, hein ?»« Oui, dit souvent, j'en donne à l'écarté. » Et user le tapis de l'escalier de Bignon. Il y a eu de l'albuminerie dans son affaire, n'est-ce pas? Une vie brûlée, quoi. Le jeu, les femmes, la bonne chère, l'équipage du diable. Est-ce qu'il n'était pas un peu ruiné? Oh, pas du tout. Il venait encore de réaliser une vieille tente de 5 à 6 000 francs. Il doit au contraire laisser à sa veuve et à son fils une très jolie fortune. « Bon, alors la belle Madame Bernard se remariera. Qui sait? Peut-être pas à cause du petit. Il paraît qu'elle adore son fils. » En somme, on regrettait peu ce mort de première classe, porté en terre avec tout le luxe dont sont capables les pompes funèbres. Messe chantée, fleurs de Nice, torchères à flamme verte autour du catafalque. Et le plus beau maître de cérémonie, oh, un gaillard superbe, avec l'air de morgue et les favoris blancs d'un vieux père d'Angleterre, un homme précieux que l'administration ne sortait que dans les grands jours, et qui avait joué autrefois les pères nobles en province, s'il vous plaît. Même malgré tout cet apparat, le défunt M. Bernard Desvignes, député et membre du Conseil général de la Mayenne, ancien officier de cavalerie, chevalier de la Légion d'honneur, etc., était traité selon ses mérites dans les entretiens échangés à voix basse, derrière les mains gantées de noir. Et, de fait, il n'avait été qu'un viveur vulgaire, sans grâce, sans élégance, resté provincial malgré ses 15 ans de Paris. Rien de plus banal que son histoire. Riche, il épousait à 28 ans la fille d'un sénateur corse, ami personnel de Napoléon III, l'admirable Mademoiselle Antonini, dont la beauté de Transtévérine faisait alors sensation aux Tuileries et à Compiègne. Pendant quelque temps, il l'aimait à sa manière. Puis tout à coup, sottement et injustement jaloux de sa femme, il démissionnait de son grade de lieutenant au dragon de l'impératrice, s'enfouissait dans ses terres, il prenait de lourdes habitudes, ne quittait plus ses bottes de chasse et fumait sa pipe à table après le café en sirotant des petits verres. Un fils lui naissait, seule consolation de Madame Bernard, bientôt négligée par l'ancien libertin de garnison qui, après 2 ans de ménage, allait souvent à Paris tirer une bordée de matelots et qui, dans ses sorties de chasse, tout en déjeunant d'une rustique omelette sur un coin de table, prenait la taille des filles de ferme. Le premier coup de canon de la guerre de 1870 éveilla pourtant un écho dans l'âme de ce grossier jouisseur et lui rappela qu'il avait été soldat. Commandant de mobile, il se battit avec crânerie, attrapa une blessure et la croix, et aux élections, fut envoyé à la chambre par son département. En grosse bête qu'il était, il suivit les majorités. De réactionnaire, il devint tour à tour centre-droit, centre-gauche, opportuniste, n'ouvrit jamais la bouche que pour demander la clôture du toujours et fut toujours réélu. Mais, contraint par ses fonctions d'habiter Paris, il lâcha les rênes à son tempérament et se rua dans le plaisir. Madame Bernard fut alors tout à fait abandonnée et ne vit plus que rarement et à peine aux heures des repas, ce mari qu'elle n'avait jamais aimé et qu'à présent elle méprisait. Trop honnête pour se venger, trop fière pour se plaindre, elle fuyait le monde et, presque toujours seule dans son vaste appartement du quai Malaquais, elle se consacrait tout entière à son fils, qui suivait comme externe les cours du lycée Louis-le-Grand et donnait déjà les signes d'une intelligence singulièrement précoce. Elle était de ces mères qui apprennent le grec et le latin pour corriger les devoirs de leur enfant et lui faire réciter ses leçons. On parlait d'elle avec admiration, car les quelques femmes admises dans son intimité n'avaient aucun sujet de jalousie contre cette beauté qui se cachait, beauté demeurée intacte cependant, sur laquelle la trentaine avait mis la chaude pâleur d'un beau marbre et que le temps ni le chagrin n'avaient marqué d'un seul coup d'ongle. Ce malheur, subi avec tant de courage et de dignité, était cité partout comme un exemple, et la médisance parisienne ne soulignait même pas d'un sourire le nom du colonel de Voris, un camarade de promotion du mari, dont le sentiment respectueux pour Madame Bernard des Vignes osait à peine se manifester par de simples et timides visites. Enfin, il était fini le long supplice de cette pauvre femme. Bernard, le gros Bernard, comme l'appelaient ses amis du club, n'avait pu résister à sa dernière indigestion de truffes, et sur le seuil de l'église, autour du volumineux cercueil qu'attendait le fourgon des pompes funèbres, on formait le cercle pour écouter les discours. Mais, tandis que défilaient les mensonges oratoires, « Bon français, intrépide soldat, patriote éclairé », tous ces mondains, importunés par ce mort dont il était trop longtemps question, pensaient tout au plus, s'ils pensaient à quelque chose, à la belle et riche veuve enfin libre. Et lorsque la cérémonie fut terminée et que l'assistance se dispersa, cette phrase fut maintes fois prononcée dans les dialogues d'adieu. « Oh, la belle Madame Bernard se remariera avant un an d'ici. Voulez-vous le parier ?» Quelques semaines après l'enterrement, Madame Bernard des Vignes, en deuil, était assise devant son métier à tapisserie, près de la fenêtre de son boudoir. Ses yeux absorbés, sans regard, erraient sur le paysage du quai, si charmant par un beau jour. Mais elle ne voyait ni le ciel de l'avant-printemps, d'un bleu si tendre, ni le fleuve en marche, sillonné par les joyeux bateaux et miroitant au soleil, ni la noble façade du Louvre, ni la svelte bouquet d'arbres au coin du pont royal, où déjà courait dans les branches noires comme une fumée de verdure. S'abandonnant dans son fauteuil, accoudée, deux doigts sur la tempe, la belle veuve, son buste de déesse étreint par la robe noire bien ajustée, évoquait en une longue rêverie toute sa vie passée. Elle se revoyait aux Tuileries, traversant pour la première fois au bras de son père les salons magnifiques. Elle entendait derrière elle, dans le sillage de sa robe de bal, un murmure d'admiration. Elle voyait sur le visage de tous ceux qui la regardaient passer un demi-sourire, une expression subitement heureuse, qui la remerciait d'être si belle. Elle le retrouvait, cet éclair des regards charmés, dans les yeux mêmes de l'empereur et de l'impératrice, au moment de la présentation. Et comme tout à coup l'orchestre attaquait le brillant prélude d'une valse, il lui semblait que cet air triomphal éclatait en son honneur. Puis, c'était plusieurs mois de fête, d'éblouissement. Elle s'épanouissait, rose victorieuse, dans le groupe des jeunes filles de la cour. Reine des Amazones, à travers les taillis d'or et de flammes de la forêt automnale, elle suivait au galop les chasses de Compiègne. Elle était la célèbre Mademoiselle Bianca Antonini, et la souveraine conquise par cet effluve de sympathie qui émane des êtres parfaitement beaux, ne passait jamais devant elle sans lui adresser quelques paroles douces et flatteuses, qu'elle écoutait, les yeux baissés, avec une révérence confuse. Mais voilà, pas de fortune, point de dot ou à peu près. Sans doute, l'empereur avait récompensé par un siège au Sénat les services du vieil Antonini, une de ces fidélités où se combinent l'instinct du caniche et le fanatisme du mamelouk, un de ces dévouements toujours prêts à se jeter entre la poitrine du maître et le poignard des assassins. Mais, excepté son traitement de sénateur, le vieux Corse ne possédait rien qu'une maison en ruine et quelques hectares de maquis dans le sauvage pays de Sartène. D'une probité robuste, ce conspirateur, dont les yeux de bon chien et le sourire attendri sous une rude et grise moustache de gendarme faisaient plaisir à Napoléon III, en lui rappelant sa jeunesse et ses mauvais jours, cet ancien sous-officier, qui avait risqué, dans l'affaire de Strasbourg, le conseil de guerre et les balles du peloton d'exécution, pouvait montrer, au milieu des tripotages de l'époque, des mains absolument pures. On savait que Mademoiselle Antonini était pauvre. Aussi, lorsque Bernard Desvignes, le beau lieutenant de dragons, lui fait valser 3 fois de suite au bal des Tuileries, tout le monde l'estima très heureuse de rencontrer un parti de 100 000 francs de rente. Elle se mariait sans entraînement, par raison, pour assurer son père inquiet de l'avenir, et brusquement, tout son bonheur disparaissait comme un décor qu'on enlève. C'était l'absurde jalousie de son mari, l'exil en province, l'amer dégoût de découvrir dans l'homme à qui elle avait lié sa vie un grossier viveur, bassement libertin, presque ivrogne. Sans son nouveau-né, sans ce fils qu'elle avait d'elle-même allaité, dont la venue lui avait empli de maternité le cœur et les entrailles, cette Corse, qui était bien de son pays, fière, chaste, vindicative, eût certainement quitté son indigne époux. Elle se résignait pourtant à cause de l'enfant. Mais de nouveaux malheurs venaient alors la frapper. L'empire s'écroulait. Son père mourait, tué raide d'un coup d'apoplexie par la nouvelle de la capitulation de Sedan. Enfin, après la guerre, son mari élu député la ramenait à Paris. Et elle se rappelait les longues années d'ennui, de solitude, passées dans ce même boudoir, près de cette même fenêtre, devant ce fleuve qui coulait toujours, si lent, si monotone, comme sa vie. Sans doute, elle avait son fils, qu'elle aimait d'une tendresse passionnée, et qui, à 13 ans, était déjà un compagnon pour elle, un petit homme. N'avait-elle pas vécu jusqu'alors pour lui seul? Eh bien, elle continuerait, voilà tout. Elle vieillirait auprès de lui, le marierait, deviendrait grand-mère. Son cher petit Armand. Elle l'attendait, il allait revenir du lycée. Et elle s'attendrissait à la pensée qu'il entrerait tout à l'heure dans cette chambre, frêle en habit de deuil, qui se jetterait à son cou, qu'elle le baiserait longuement, ardemment sur son front pâle d'écolier laborieux, et qu'elle le retiendrait ainsi dans ses bras, le regardant avec amour bien au fond de ses profonds yeux noirs qu'il tenait d'elle, de ses yeux si lumineux, si purs, où brûlait une flamme de pensée. Cependant, un autre souvenir vient de traverser la rêverie de Madame Bernard. Elle songe maintenant au seul ami de son mari qui soit devenu le sien, au seul homme qui fasse s'émouvoir en elle une sympathie tendre. Voilà plusieurs années que tous les jeudis, c'est son jour, vers les 6 heures, moment où elle n'est jamais seule, le colonel de Voris se présente chez elle, froid, correct, un peu raide même dans sa redingote militairement boutonnée, qu'il s'assied dans le cercle des dames, se mêle avec effort aux banalités de la conversation, refuse une tasse de thé et se retire après une visite d'un quart d'heure. Il l'aime, elle en est certaine, et tant de respect, de timidité la touchent, surtout chez le héros de Saint-Privat, qui, ayant eu son cheval tué sous lui, avait ramassé un fusil de munitions, comme naît en Russie, et ramené au combat ses troupes débandées. Il l'aime. Au chacun de l'adieu, elle a toujours senti trembler la main droite du colonel, cette main trouée d'un coup de lance allemande, que par pudeur de sa cicatrice, il ne dégante presque jamais. Si elle voulait se remarier, pourtant, cet homme d'honneur et de courage, ce paladin au cœur jeune et aux tempes grises, serait pour Armand un protecteur, un guide dans la vie, un nouveau et meilleur père. Tandis que l'esprit de la veuve suit la pente de cet espoir, une douceur infinie se répand sur son beau visage. Mais qu'a-t-elle donc? Pourquoi son cœur bat-il plus fort et plus vite? Tout à coup, un domestique annonce le colonel de Vorris. Assurément, il doit à Madame Bernard une visite de sympathie, et sa qualité d'ancien ami lui permet de se présenter à un jour, à une heure quelconque. Mais pourquoi, précisément aujourd'hui, pourquoi à ce moment où elle est avec lui en pensée? Cette complicité du hasard, n'est-ce pas étrange? Et en voyant entrer le colonel, l'air toujours jeune, la taille mince, la moustache semblant très noire par le contraste des cheveux gris, Madame Bernard est toute troublée. Il s'approche, lui tend la main, sa main mutilée sous le gant, s'assied près d'elle, lui parle de son deuil. « J'étais de cœur avec vous dans votre douleur, dit-il, vous n'en doutez pas. » Et rien de plus sur ce pénible sujet. Il a la délicatesse de comprendre qu'elle serait choquée par des doléances hypocrites. Il s'informe alors d'Armand et sa voix devient amicale quand il prononce le nom de l'enfant. Mais comme l'entretien languit, coupé de silence. « Oh, je venais aussi, madame, dit le colonel avec un peu d'hésitation, vous demander un conseil. » « Un conseil à moi et lequel ?»« Avant votre deuil, j'avais l'intention de retourner en Algérie. Je voulais m'éloigner, j'avais une peine intime. Or, à présent, le nouveau ministre de la guerre m'offre de faire partie de son état-major, de rester à Paris. Le chagrin qui me poussait à fuir n'existe plus, ou du moins, il n'est plus sans espoir. J'hésite. Dois-je rester ou partir? Je le demande simplement, franchement, à votre amitié. » Madame Bernard a compris. Sous cette forme à peine voilée, le colonel lui demande s'il peut attendre la récompense de sa silencieuse fidélité. Elle n'a qu'à dire un mot « restez » et dans un an, elle sera la femme d'un homme qu'elle estime, qui la consolera de toutes les misères du passé, qui sera paternelle pour son cher Armand. Elle pourra connaître le bonheur, aimer, vivre. Mais la porte s'ouvre brusquement, une fraîche voix d'enfant crie « Bonjour, mère !» Madame Bernard tressaille. C'est son fils qui revient du collège et qui, ayant jeté ses livres sur la table, lui saute joyeusement au cou. « Bonjour, mon enfant, dit le colonel. Voulez-vous me donner une poignée de main ?» Armand connaît à peine ce visiteur à l'air grave. Il est de nature un peu sauvage. Cependant, il touche la main qui lui est offerte, mais par obéissance polie. Et dans ses grands yeux noirs passe un regard d'inquiétude, presque de soupçon. Madame Bernard a observé son fils. Elle voit combien cet homme et cet enfant sont étrangers l'un à l'autre, et, profondément remuée par l'admirable, par le tout-puissant instinct maternel, elle rougit, elle sent à ses oreilles une chaleur de honte. « Mais à quoi pensait-elle donc tout à l'heure, grand Dieu ?» Alors, se levant de son fauteuil, elle attire Armand tout près d'elle, pose avec un geste caressant une de ses mains sur la tête de son fils, et d'une voix calme, les yeux baissés, Elle dit au colonel debout devant elle. Oh, je vous dois une réponse, mon cher monsieur de Vorice, et elle sera aussi loyale que votre demande. Je crois, oui, je crois que vous feriez mieux d'aller en Algérie. Et ayant salué respectueusement le colonel, s'éloigne d'un pas ferme, comme un soldat qui son chef a dit d'aller se faire tuer et qui y va. C'est décidé. La belle Madame Bernard Davy ne se remariera pas. À partir de cette heure décisive, l'amour de la veuve pour son fils s'accrut en raison du sacrifice qu'elle lui avait fait et devint encore plus passionné, presque jaloux. Elle ne pouvait plus se passer de la présence d'Armand. Elle avait besoin, sinon de le tenir sous ses yeux, du moins de le savoir à la maison, tout près d'elle. Elle souffrait de ses absences, pourtant assez courtes, puisqu'il n'allait au lycée que pour en suivre les cours, et parfois, prise de l'impérieux désir de le revoir une demi-heure plus tôt, elle demandait sa voiture et se faisait conduire à la porte de Louis le Grand. Elle arrivait là, bien en avance, s'impatientait, jetait sur la porte du lycée des regards d'amoureuse venue la première au rendez-vous. Enfin, elle entendait le roulement de tambour annonçant la fin de la classe, et si l'enfant sortait l'un des derniers, elle en souffrait positivement, songeait presque à lui reprocher de ne pas avoir pressenti qu'elle était là. Vite, elle le faisait monter dans le coupé, l'étreignait pour le baiser au front, comme s'il fût revenu d'un long voyage, et pendant tout le temps du retour, le retenait ainsi contre elle avec un geste d'avare. Quelquefois, Armand sortait du lycée, riant et causant avec un camarade, et Madame Bernard, soudain inquiétée, posait à son fils 20 questions pressantes. « Comment s'appelle-t-il? Qui est-il? Que font ses parents? Veux-tu vraiment faire ton ami ?» Et si Armand, avec le facile enthousiasme de son âge, parlait chaleureusement de son jeune condisciple, vantait son esprit ou sa bonté, Madame Bernard éprouvait une sensation pénible, se méfiait déjà de ce nouveau venu qui lui prenait un peu de son enfant. C'était injuste, elle le savait, elle s'en accusait. N'aurait-elle pas dû se réjouir, au contraire, qu'Armand fut affectueux et cordial? « Mais invite ce jeune homme à venir à la maison, » disait-elle en faisant un effort. « Je serais charmée de le recevoir. » Et quand elle revoyait le camarade, elle tâchait d'être très gracieuse, comme pour se punir de son mauvais sentiment. Mais elle y réussissait mal. C'était plus fort qu'elle. Et elle ne retrouvait la possession d'elle-même que lorsque l'autre était parti, et qu'elle avait de nouveau son fils tout entier, à elle toute seule. Armand se rendait parfaitement compte de ce que la tendresse de sa mère avait d'exclusif et d'ombrageux. Car tout en lui, intelligence et sensibilité, s'était prématurément développé, et cela même à cause de l'éducation spéciale de son enfance, très solitaire, très caressée, dans la tiédeur des jupes maternelles. Il ne restait déjà plus dans cette nature d'élite aucun des instincts égoïstes, brutaux, ingrats, qui sont hélas naturels chez les très jeunes gens. Cet enfant extraordinaire qui faisait des études excellentes et cueillait en se jouant tous les lauriers universitaires, comprit, excusa, admira le cœur maternel qui l'aimait d'un amour si aigu jusqu'à la souffrance, et n'y toucha que d'une main pieuse et légère, avec les délicatesses d'un homme fait. Ce fut une immense joie pour Madame Bernard quand elle reconnut qu'elle était tant et si bien aimée. Alors elle se reprocha d'absorber son fils, de le trop garder près d'elle. Elle attira dans sa maison et reçut avec bonté les camarades de son Armand, et voulut lui donner plus de liberté. Mais loin d'en abuser, comme l'eût fait tout autre adolescent, il redoublait d'assiduité, de touchantes attentions. Pendant plusieurs années, elle fut la plus heureuse des mères. Un de ses très vifs plaisirs était de sortir à pied dans Paris au bras de son fils. Il finissait sa dernière année de collège, était devenu un svelte et charmant jeune homme, s'habillant bien, sans gaucherie. Quant à Madame Bernard, elle avait franchi victorieusement la 36e année. Bien des têtes se retournaient sur leur passage. Mais la belle veuve ne remarquait même pas que tous les hommes avaient encore pour elle un regard soudainement charmé, tout occupée qu'elle était de chercher dans les yeux des femmes, un instant fixé sur son fils, ce sourire fugitif qui signifie clairement « le joli garçon ». Il ne paraissait pas y prendre garde d'ailleurs, et c'était une douleur de plus pour cette mère de se dire que son cher fils, si intelligent, si précoce, était en même temps si pur et ignorait à ce point sa beauté. Elle y songeait bien quelquefois, cette crise solennelle de la puberté, à cette redoutable métamorphose qui, de l'adolescent, fait un homme. Oui, un jour viendrait, jour maudit, où son Armand aimerait bien une autre femme, autrement et plus qu'elle. Cette pensée la faisait si douloureusement souffrir que, prise de lâcheté, elle ne voulait pas s'y arrêter, la chassait de son esprit. À coup sûr, mais plus tard, oh bien plus tard, quand Armand aurait fait son droit, entrepris une carrière, il se marierait. Cela, c'était tout naturel. Et alors, elle serait raisonnable, l'aiderait à choisir une compagne qui pût le rendre heureux. Mais la maîtresse, la voleuse de jeune cœur, celle qui prend un fils à sa mère et le lui renvoie, les sens troublés, les yeux meurtris, celle-là était pour la Corse rancunière, pour la chaste veuve du débauché, pour la mère exigeante et jalouse, une ennemie d'avance exécrée, à laquelle elle ne pouvait penser sans serrer les dents et sans trembler de colère. Cette rivale future, Madame Bernard des Vignes, l'introduisit elle-même dans sa maison au moment où son fils, qui venait d'atteindre sa 20e année, commençait ses études de droit. Elle s'appelait Henriette Perrin et était une simple ouvrière en journée. Une amie de Madame Bernard, personne extrêmement charitable, lui avait chaudement recommandé cette jeune fille. À peine âgée de 19 ans, orpheline de père et de mère, elle n'avait pour vivre que son gain, 3 francs par jour et nourrie, et trouvait encore moyen, avec d'aussi faibles ressources, d'aider une tante très âgée chez qui elle demeurait. Madame Bernard fut séduite au premier abord par cette jolie enfant, si gracieuse, si décente, et s'habillant avec le goût instinctif des fillettes de Paris, qui vous ont tout de suite l'air d'une dame dans une robe à 20 sous le mètre, chiffonnée de leurs mains industrieuses. L'ouvrière fut aussi prise en amitié par Léontine, la vieille femme de charge, qui fit sur elle à sa maîtresse les rapports les plus favorables. « Cette pauvre petite, disait-elle à Madame Bernard, ça vous arrive à pied, du fond de vos girards, dès 8 heures du matin, et à jeun encore. Je lui donne son café au lait, et bien vite elle s'installe au petit salon, dans l'embrasure de la fenêtre, tranquille comme Baptiste, sans faire plus de bruit qu'une souris. Ah, c'est mamselle silencieuse, toute la journée elle tire son aiguille. Et je te couds, et je te couds. Jolie avec ça. Madame a remarqué ses beaux cheveux blonds et une taille à tenir dans les 2 mains. Comme Madame me l'a permis, je lui apporte un repas, ses repas sur un guéridon. Car Madame a bien raison, pour une jeunesse, ça ne vaut rien, l'office et la société des domestiques. Elle mange très proprement, sans laisser tomber une miette de pain. Alors, des fois, nous faisons un bout de causette. Elle a bien du mal à aller, Madame. Figurez-vous que sans elle, sa tante serait à l'heure qu'il est avec les vieilles priseuses qu'on voit se chauffer au soleil, sur les bancs devant la salpêtrière. Si jeune, si courageuse et des charges de famille. Oh, si ça ne fait pas pitié !» Madame Bernard reconnut bientôt par elle-même que la jeune ouvrière méritait réellement tous ses éloges, trouva toujours en elle un petit être doux, timide, laborieux, touchant, et pour lui marquer son intérêt, lui assura 3 journées de travail par semaine. Elle prit l'habitude, quand elle traversait le petit salon, de voir, près de la fenêtre, cette gentille tête blonde penchée sur son ouvrage, et elle s'arrêtait souvent pour adresser à Henriette quelques paroles encourageantes. Il y avait même apparemment un charme qui émanait de cet enfant, car lorsque Madame Bernard ne la voyait pas à sa place accoutumée, elle songeait, avec une nuance de regret, « Tiens, oui, ce n'est pas son jour. » C'était ainsi depuis quelques mois. Quand Madame Bernard reçut une lettre d'une orthographe incertaine et d'une écriture maladroite, par laquelle Henriette prenait congé d'elle, la remerciait de ses bontés et lui annonçait qu'elle avait trouvé un emploi régulier chez une couturière en vogue. « Ah, mais cette petite aurait bien pu venir m'annoncer cela elle-même !» se dit Madame Bernard un peu choquée. « Il me semble que j'étais assez bonne pour elle. Après tout, le temps de ce genre-là est précieux. C'est leur gagne-pain. Bah, tant mieux si elle a trouvé une bonne place. » Et elle n'y pensa plus. Mais quelques jours plus tard, étant entrée dans la chambre de son fils pour renouveler les fleurs des jardinières, elle vit une lettre tombée sur le tapis, la ramassa pour la poser sur le bureau, jeta machinalement un regard sur l'enveloppe, y lut le nom d'Armand Bernard et reconnut avec stupéfaction la calligraphie enfantine de l'ouvrière. Un soupçon soudain lui glaça le cœur. Avait-elle ou non le droit de lire cette lettre ? Oh, elle ne s'arrêta même pas 3 secondes devant ce scrupule. Il s'agissait de son fils, pour qu'elle eût commis un parjure, un meurtre, n'importe quel crime. Elle arracha vivement le papier de son enveloppe, le déplia, et ses mots lui éclaboussèrent et lui brûlèrent les yeux comme un jet de vitriol. « Mon Armand, bien-aimé, viens m'attendre ce soir à la sortie du magasin. Nous passerons la soirée ensemble. Je t'adore, Henriette. » Congestionné, foudroyé, une sensation de brûlure à la racine de chacun de ses cheveux, les genoux cassés par le choc de l'émotion, Madame Bernard tomba, s'écroula dans le fauteuil de travail de son fils. Ainsi, ce qu'elle redoutait, ce qu'elle osait à peine prévoir, seulement dans un lointain avenir, était un fait accompli. Son fils avait une maîtresse, et laquelle ? La couturière de la maison. Pourquoi pas la bonne, la laveuse de vaisselle ? Oui, son Armand, que la veille encore elle croyait pure comme une primevère, son exquis et aristocratique enfant, pâle et mince, ayant l'air d'un petit prince de sang royal, appartenait à cette gamine des faubourgs, à cette fille du ruisseau de Paris. Il l'aimait sans doute, et il avait peut-être couvert de baisers cette horrible lettre qui était écrite comme une note de blanchisseuse. Et elle n'avait rien vu, elle ne s'était méfiée de rien. Oh, l'aveugle, la stupide ! Comment ? C'était elle-même qui, par imbécile bonté, avait laissé pénétrer sous son toit, protéger cette drôlesse. Mais voilà qui était plus fort. À présent, elle se rappelait avoir attiré l'attention d'Armand sur l'ouvrière, avoir parlé d'elle devant lui avec sympathie. Alors, c'était pour cela qu'elle avait consacré à Armand toutes les minutes de son existence ? Pour cela qu'elle avait supporté sans une plainte les longues années d'outrage et d'abandon de son mariage ? Pour cela qu'elle avait renoncé à l'espoir, à la certitude du bonheur en éloignant le colonel de Varis ? C'était pour elle que cet enfant surveillé comme un trésor d'avare soignée comme une fleur de serre, pour que ce chef-d'œuvre maternel, sorti et créé de ses entrailles, de son dévouement, de son amour, devint en un instant, au premier appel du sexe, à la première poussée des sens, le régal d'une grisette, le caprice et l'amusement d'une fille. Et elle avait eu la naïveté, la bêtise de le croire meilleur, plus délicat que les autres hommes. Allons donc. Il avait bien dans les veines le sang de son père, le sang de vice et de débauche qui donnait au gros Bernard des apoplexies de désir devant la pire des maritornes. Eh bien là, vraiment, c'était du propre. Brisé, navré, un cloaque d'amertume et de dégoût dans le cœur, Madame Bernard Desvignes restait assise, les yeux fixés sur la fatale lettre, dans cette jolie chambre où tout, les meubles élégants, la lumière discrète, les livres bien reliés, jusqu'au fin parfum des menus objets en cuir de Vienne placés en ordre sur le bureau, tout lui rappelait les habitudes raffinées, l'enfance pure et studieuse de son fils. Et cette lettre qu'elle tenait à la main, cette lettre pareille à un crapaud rencontré dans le sable ratissé d'un parc anglais, cette lettre qui puait le peuple, bousillée sur du papier acheté chez l'épicier, avec ses deux grossières fautes d'orthographe et sa vulgaire écriture d'enfant des écoles primaires, faisait monter une nausée aux lèvres de l'honnête femme. Tout à coup, Armand entra, son portefeuille d'étudiant sous le bras, insoucieux, léger, une belle flamme de jeunesse dans les yeux, et surpris de trouver sa mère chez lui. « Tiens, tu es ici !» s'écria-t-il joyeusement. « Bonjour, maman !» Mais Madame Bernard s'était levée, raide, toute pâle. Elle jeta la lettre d'Henriette sur le bureau, la montra à son fils d'un doigt frémissant, et d'une voix qu'il ne lui connaissait pas, d'une voix sonnant le métal et chargée d'insultes et de colère. « J'ai lu, » dit-elle, « une autre fois, et soit de ne pas laisser traîner les lettres de ta maîtresse. » Elle ajouta encore, comme suffoquant, « une pareille fille !» Et, laissant le jeune homme stupéfait et pourpre de honte, la mère irritée sortit en faisant claquer la porte. Pourtant, ces pauvres enfants étaient bien excusables. Tout comme sa mère, Armand, quand il traversait le petit salon, s'était intéressé à ce gentil profil qui s'inclinait légèrement pour le saluer. Mais il n'avait pas vu l'innocent qu'il était, le regard vite détourné, mais si tendre, qu'on lui jetait au passage, ni la rougeur qui montait alors au visage de l'ouvrière. Quant à elle, la première fois qu'elle avait aperçu Armand, oh, du premier choc, sans se défendre, elle était tombée amoureuse de lui, et ce beau et fin jeune homme, aux gestes harmonieux, aux yeux si ardents et si doux, lui était apparu comme un être d'une essence supérieure. Henriette était sage, non pas ignorante. Dans l'apprentissage, les conversations entre camarades l'avaient instruite. Mais jamais son désir n'eût été assez audacieux pour s'élever jusqu'à l'objet de son naissant amour. À ses yeux, Armand était un riche, un de ceux que les pauvres ne peuvent connaître, ne voient que de loin. Elle était sûre qu'il avait une bonne amie, car on ne suppose pas au faubourg qu'un homme puisse demeurer pur jusqu'à 20 ans. Mais celle qu'il aimait devait être une femme de son monde, une belle dame, et sans la connaître, mais ne doutant pas de son existence, Henriette la trouvait bien heureuse et lui enviait la joie de passer ses doigts chargés de bagues dans la noire et belle chevelure, toujours un peu en désordre, du jeune patricien. Elle, la pauvre fille, devait se contenter de l'admirer à distance, respectueusement. Quand il lui disait en passant « Bonjour, mademoiselle », c'était quelque chose d'exquis qu'Henriette sentait se fondre dans son cœur. Mais s'imaginer qu'elle pût fixer l'attention d'Armand, lui paraître jolie, non, elle n'était pas si folle. Il la trouvait délicieuse. Il était entraîné vers elle par toutes ses curiosités, toutes ses ardeurs d'ingénue, en qui venait d'éclater, de s'épanouir avec violence, le fleur intact du désir. Sans doute, il était resté chaste, n'ayant connu ni les turpitudes des dortoirs de collège, ni les brutales initiations de la citère vénale. Mais l'heure de la crise avait sonné. À la seule pensée que cette charmante fille était là, sous le même toit que lui, Armand succombait sous le poids d'une soudaine langueur, devenait incapable de tout travail. Laissant brusquement ses livres ouverts, il trouvait hypocritement pour lui-même un prétexte de circuler dans l'appartement, de traverser la pièce où se tenait Henriette assise et cousant, de l'envelopper d'un rapide regard, de recevoir l'éclair fugitif de ses yeux. Puis il rentrait dans sa chambre d'étudiant, se jetait avec fatigue sur son canapé, et restait là, accablé, le front chaud, les mains inquiètes, avec des bâillements et des envies de pleurer. Mieux informée sur la vie, Henriette finit par s'apercevoir du trouble du jeune homme en sa présence. Était-ce possible? Elle lui plaisait? Ce petit monsieur, si délicat, si mignon, comme elle se le disait en pensée dans son langage populaire, cet Armand qui lui semblait être d'une autre race qu'elle-même, qui lui faisait l'effet d'une sorte de demi-dieu, daignait prendre garde à elle? Dans son humilité sincère, elle en fut d'abord toute confuse. Puis une tendresse infinie inonda son cœur. Ah, mais Armand n'avait qu'à faire un signe, tout ce qu'il voudrait tout de suite. Très simple, purement instinctive, elle ignorait la coquetterie, les manèges d'amour. Oui, sur un clin d'œil, elle était prête à s'offrir, elle et sa jeunesse fleurie, prête à donner son cœur surtout, au fond duquel elle sentait une force mystérieuse, irrésistible, qui la soulevait, qui la poussait dans les bras d'Armand. Déjà, elle se reprochait de ne pas lui faire les premières avances. Elle le voyait si timide, elle aurait voulu l'encourager. Mais elle ne pouvait vaincre un reste obstiné de pudeur. C'était si facile pourtant de répondre au regard d'Armand par un regard, à son sourire par un sourire. La sotte! Maintenant, quand il passait près d'elle, elle n'avait même plus le courage de lever la tête. De sorte que les jours et les jours s'écoulaient, sans que le jeune homme adoré se doutât qu'il le fût, et sans que ce maladroit Daphnis comprît qu'il était attendu comme Jupiter. Mais la catastrophe était inévitable. Par un beau dimanche, on était à la fin du mois de mai, par un dimanche de ciel bleu, de soleil et de robe claire, Armand, qui devait dîner chez un de ses camarades, avait pris congé de sa mère vers 4 heures et était allé se promener au hasard. Une fois dehors, malgré l'air tiède et l'éclatante lumière, il se sentit affreusement triste. Il enviait tout le petit monde qui passait par couple avec un air de fête. Quel Parisien, dans les heures troublées de la prime jeunesse, n'a pas connu ces flâneries épuisantes, cette sensation si douloureuse de solitude et d'angoisse au milieu de la foule. Il remonta, entraînant ses pas, toute la rue des Saints-Pères, jusqu'au bout, tournoi à droite par la rue de Sèvres, dépassa le square planté de platanes, les devantures fermées du Bon Marché, et continua son chemin sur le spacieux trottoir qui longe le vieux mur de l'hôpital Laennec. À cette heure-là, le dimanche en été, cette large rue du Faubourg clérical est à peu près déserte. Les boutiques d'objets de piété sont closes. Les dévotes et les bandes d'orphelines sont déjà revenues des vêpres. Quelques rares passants, ouvriers et petits bourgeois endimanchés. Ça et là, deux piou-piou gantés de blanc, la soutane noire d'un prêtre qui se hâte. C'est tout. Et de 10 minutes en 10 minutes, au milieu de la chaussée, l'omnibus passe avec de lourds cahots, comme endormi. Mais autour de la porte de l'hôpital, Les mesquins étalages de fleurs, de biscuits et d'oranges. L'entrée et la sortie des visiteurs entretiennent un peu d'animation. Et ce fut au milieu de ce rassemblement que tout à coup Armand aperçut Henriette à quelques pas devant lui. Elle était vêtue d'une robe de rien du tout, bleue à pois blanc, mais qui moulait sa souple et svelte taille. Sur son méchant chapeau de paille brune, frissonnait un gentil bouquet de bluets, et de sa main bien gantée, elle tenait sur son épaule son ombrelle ouverte. Elle était charmante ainsi, la Parisienne, et c'était la jeunesse même. En reconnaissant Armand, elle devint toute rose, et sa bouche épanouie, ses dents étincelantes, ses yeux de myosotis mouillés de rosée, sa chevelure blonde où pétillaient des points d'or jusqu'à son humble et fraîche toilette, tout en elle sembla sourire. Armand avait soulevé son chapeau, et bien que son cœur battît à coups profonds, il allait passer outre le niais. Mais elle lui adressa un si gracieux « Bonjour, monsieur !» qu'il s'arrêta, et voulant engager la conversation, ne sachant trop que dire, il lui demanda d'une voix un peu frémissante d'où elle venait ainsi. Elle lui répondit avec un égal embarras, parlant pour parler très vite, et elle sortait de cet hôpital où elle est allée porter quelques douceurs à sa tante malade depuis 15 jours. Mais ce ne serait rien, la bonne femme allait déjà mieux et devait être envoyée bientôt à l'asile des convalescents. Henriette s'en réjouissait car c'était bien triste pour elle de trouver tous les soirs, comme elle disait, la maison seule. Ils ne pensaient ni l'un ni l'autre à leurs paroles. Ils se regardaient au fond des yeux, émus à en trembler. Cette rencontre, cet entretien, leur paraissait à tous deux un événement extraordinaire. Parler ainsi, en pleine rue, à cette jeune fille, qu'après tout ils connaissaient à peine, était pour Armand l'action la plus téméraire de sa vie. Et quant à la grisette amoureuse, elle était éperdue comme une bergère de conte féerique à qui le fils du roi vient en grand équipage demander sa main. Sans s'en apercevoir, les deux jeunes gens s'étaient mis à marcher côte à côte. Armand, la bouche sèche, un battement de sang aux deux tempes, cherchait vainement quelque chose à dire. « Et alors, mademoiselle, à présent, vous allez vous promener ?»« Oh, mon Dieu, non, monsieur. Je vais rentrer tout doucement à la maison, faire mon petit dîner. Allez, ce ne sera pas long. Et puis on se couchera de bonne heure. Il faut que je sois levé à 7 heures du matin, vous savez bien. » Armand frémit à la pensée qu'elle allait le quitter, s'éloigner, n'être plus là. Un projet d'une audace énorme de sa part lui traversa la pensée. Et, tout en balbutiant, pris de l'héroïsme des poltrons, « Vous me disiez tout à l'heure, mademoiselle, que c'était bien triste pour vous de passer la soirée toute seule. Eh bien, puisque vous êtes libre, si vous vouliez me faire un grand plaisir, oh, mais je vous assure, un très grand plaisir, vous viendriez dîner avec moi. » Henriette eut un étourdissement de surprise et de joie. Elle croyait rêver. Le conte de fées continuait. « Comment, vous voudriez, monsieur Armand ?» Et déjà, une nuance d'intimité s'établissait entre eux par ce prénom d'Armand qu'elle prononçait pour la première fois. « C'est sérieusement, vous m'invitez à dîner ?» Il crut qu'elle allait refuser, et cette crainte l'enhardit encore. « Mais oui, dînons ensemble. Là, comme deux camarades. Je suis attendu chez un ami, mais qu'importe, je m'excuserai, j'enverrai un mot du restaurant. Bon, allez, acceptez, vous me rendrez si heureux. » Puis il ajouta, perdant la tête, « Vous êtes si charmante, je voudrais tant vous connaître mieux et devenir un peu votre amie. » Et il osa lui offrir le bras. Henriette le prit, elle se sentait défaillir et ravie. Livrant aussi son secret, elle murmura, « Oh, quel bonheur! Moi qui ne fais que penser à vous. Pauvres enfants. Depuis un quart d'heure à peine, ils pouvaient se parler librement, et déjà, dans leur sincérité naïve, ils avaient échangé leurs aveux. Ébahis et muets de bonheur, ils allaient devant eux, sans savoir où. Ils avaient atteint le boulevard Montparnasse, où circulaient de nombreux promeneurs, et les bonnes gens se retournaient, avec un sourire, pour suivre ce joli couple, si bien appareillé, si gracieux et si jeune. Mais les amoureux n'y prenaient pas garde, absorbés qu'ils étaient dans leur joie intime. Ils se remirent à causer. Ils se rappelèrent les jours de timidité et de contrainte. « Ainsi c'est vrai ?» demandait Armand. « Vous aviez depuis longtemps un peu de sympathie pour moi ?»« C'est-à-dire, répondait Henriette, que je ne vivais plus que pour les minutes où vous traversiez le petit salon. » Quand je voyais seulement le bout de la porte qui tournait, allez, je devinais bien si c'était vous. Oh, si vous saviez. Oh, est-ce possible? Et je vois, je ne me suis aperçu de rien. Oh, moi, disait alors Henriette avec une toute petite malice dans le regard, j'avais bien remarqué que vous passiez près de moi souvent. Et dire, reprenait Armand qui s'exaltait, que les choses auraient pu durer toujours ainsi, et que sans notre rencontre de ce soir. Oh, mais c'est fini tout cela, heureusement. C'est bien fini. Quel bon hasard que je vous ai rencontré. Pour un rien, j'allais passer sans vous dire un mot. Je suis si peu hardi. Mais j'ai vu tout de suite dans vos yeux qu'il fallait vous parler, que cela vous ferait plaisir. Nous nous connaissons à présent, n'est-ce pas? Et nous allons nous arranger pour nous revoir, souvent, le plus souvent possible. Et vous deviendrez ma petite amie, voulez-vous? Et la fillette, avec sa franchise populaire, qu'un sceptique eût prise pour de la frotterie, mais qui semblait adorable à Armand, répondait, la voix sourde et les yeux baissés, « Mais vous le voyez bien, que je veux ?»